Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Ouvrir notre Bible et retourner dans le Cantique des Cantiques, poursuivant notre étude. Je crois que nous sommes arrivés à la 7e réflexion sur ce livre. Je vous propose que nous retournions au texte de la fois précédente, et ceci après nous introduira dans une nouvelle page. Alors, je vous propose que nous fassions donc la lecture de ce texte dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2, et je dirai quelques mots sur un rappel, ou rappelant tout simplement ce que nous avons partagé la fois dernière, donc il y a déjà un mois. Alors, Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2, c'est Tsunamite qui dit ceci: « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe s'est répandue sur la poignée du verrou. » Voilà pour ce que nous avons évoqué la fois précédente. Je ne rappelle pas les principes de correspondance entre le livre des Cantiques des Cantiques et puis l'Évangile. Tsunamite, l'Église, Salomon, le bien-aimé, l'image de Christ. Alors maintenant c'est acquis, je crois. Notre dernier rendez-vous, nous l'avions intitulé « Les dormeurs ». Parce qu'il était question, comme nous l'avons lu il y a un instant, de ce phénomène où l'amour peut s'endormir, l'amour en sommeil. Alors nous en avons parlé pendant suffisamment la dernière fois, où il était question de cette belle jeune fille qui va s'endormir, Tsunamite. Elle s'endort parce que l'attente du retour de son bien-aimé s'éternise, ça traîne en longueur. Comme peut-être aujourd'hui, si nous faisons la même comparaison, tout comme la condition de l'Église pendant tous ces siècles, 20 siècles d'attente, tout simplement. Alors, Tsunamite s'est assoupie. Peut-être devons-nous craindre que l'Église s'assoupisse, parce que Jésus n'est toujours pas revenu. Le bien-aimé n'est toujours pas là. Mais néanmoins, nous sommes exhortés à garder la foi et à attendre celui qui doit revenir du haut des cieux pour enlever son Église et préparer les noces de l'agneau. Vous connaissez tout cela. Donc, c'est l'assoupissement. Vous savez, ce chapitre 5, il est très important au cœur du Cantique des Cantiques parce qu'il nous parle à la fois d'assoupissement et il nous parle de réveil. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui peut être d'une manière très sensible à nos cœurs. Tsunamite dit « J'étais endormi et... j'étais endormi, mais mon cœur veillait. » Alors, on avait expliqué la première fois que c'était une veille affective, sentimentale. Mais nous avons parlé particulièrement d'un assoupissement spirituel. Ce qui est quand même assez conséquent pour l'Église, où peut-être parfois elle ne peut plus prier, ou elle ne prie plus, elle a perdu le sens, des convocations telles que la vie dans le culte, l'engagement dans la vie de prière, Cet impératif que Jésus nous a donné à tous, d'évangéliser le monde, de parler, de témoigner, d'être des ambassadeurs de son royaume, etc., etc. Somnolence spirituelle où on tombe dans la routine, dans la tradition, dans le ritualisme, etc., etc. Nous avions à cet effet cité des exemples tout à fait pertinents, me semble-t-il. L'histoire d'une parabole que Jésus nous laisse, qui est intitulée « Les vierges folles et les vierges sages ». Vous savez qu'à la fin, il nous est dit que l'époux doit revenir chercher sa fiancée pour célébrer le mariage. Et à un moment donné, il nous est dit que parmi les amis de l'épouse, les vierges donc, folles, sages, 5 et 5, Eh bien, toutes se sont assoupies. À un moment donné, c'est la nuit, et elles s'assoupissent. Et on a vu dans l'explication de la parabole que, en effet, eh bien, il y a eu une panique chez les folles, pour la bonne raison qu'on peut bien avoir une lampe, mais s'il n'y a pas d'huile dedans, ça ne sert à rien, on restera dans l'obscurité. Et on avait donc mis cela en parallèle. Et puis on se souvient également d'une autre parole, mais là c'est pas une parabole, c'est véritablement la réalité, quand Jésus va se trouver à Gethsémané et qu'il est en compagnie de ses disciples, et à un moment donné, peut-être sous la pression du monde des ténèbres qui approche, eh bien il nous est dit que tous les disciples qui étaient avec Jésus se sont assoupis. Ils n'ont pas pu résister au sommeil, et ils sont tombés. Jésus est venu une première fois pour leur dire « Mais réveillez-vous !» Une seconde fois « Réveillez-vous !» Et puis une troisième fois, il est venu « Mais vous n'avez pas pu prier une heure avec moi !» Ça, c'est aussi eh bien une des caractéristiques de l'Église qui ne prie plus, qui ne peut plus prier pour différentes raisons. Nous avions évoqué également la difficulté, la fois dernière, qu'éprouve celui qui émerge du sommeil. Moi, je ne sais pas comment vous vous réveillez le matin, mais il y en a qui partent comme des bombes, ils se réveillent, ils ont les yeux grands ouverts, ils sont déjà prêts à faire le travail, puis il y en a d'autres. Il faut une mise en route, elle est progressive. Je vois que vous souriez, parce que je pense que peut-être pour certains, vous vous reconnaissez que le démarrage, le starter, ne fonctionne pas du premier coup. Hein. C'est vrai, hein. Quand on a passé une trop bonne nuit ou une mauvaise nuit, oh là, qu'est-ce que c'est difficile. Alors, on en avait parlé naturellement. Sortir de sa léthargie, secouer la torpeur du sommeil, c'est pas facile, on le sait. Mais pour le mettre en pratique, c'est pas simple. Et c'est un peu le cas de Tsunamite qui a du mal à se réveiller. Elle dit, mais il va falloir que je me lève, j'ai pris mes habits de nuit, il va falloir que je m'habille, etc., etc. Alors, bien sûr, ça c'est toute l'image, en effet, eh bien, du sommeil qui nous tient la torpeur, et comment se débarrasser de l'engourdissement, qui est provoqué par un long sommeil. Et si vous le mettez en parallèle avec l'Église, une Église qui dort, une Église qui sommeille, une Église qui n'a peut-être pas prévu les quantités d'huile, le Saint-Esprit, nécessaires pour mettre dans la lampe, ou dans nos lampes personnelles, et que là, eh bien, le démarrage est vraiment difficile. Puis tout à coup, on l'a dans le texte, c'est la voix du bien-aimé qui se fait entendre. Alors là, c'est le branle-bas de combat. Comme cela nous est dit dans le livre de l'Apocalypse, « Je viens bientôt, préparez-vous, il vient sur les nuées !» Et c'est le bien-aimé, donc la voix du bien-aimé se fait entendre par sa parole. Et dans le texte de Cantique des Cantiques, eh bien, il est tout près de la porte. Et c'est le sursaut pour Tsunamite. Est-ce que ce sera le sursaut pour l'Église lorsque Jésus va venir? Parce que ça, c'est une chose qui est sûre. Sursaut avec l'angoissant sentiment de ne pas être tout à fait prêt pour l'accueillir. La question se pose. Elle s'est posée à Tsunamite, elle a le cœur qui bat. Il a parlé, le bien-aimé, il est si près d'elle, mais il est derrière la porte. Et elle est dans une émotion terrible, et peut-être elle se dit, mais je ne suis pas encore prête. Je l'ai tellement attendu, mais aujourd'hui je ne suis plus prête, ou je ne suis pas peut-être dans les conditions pour l'accueillir. L'Église peut réfléchir aussi à cette question parce qu'elle est importante. Et nous voyons que, qu'on l'appelle repentance ou qu'on l'appelle d'un autre mot, nous avions terminé sur cette pensée qu'il y a quelque chose quand même qui est très important, c'est que nous avons besoin d'être prêts. Vous savez, comme les Israélites, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, au moment de la Pentecôte, Dieu leur avait dit « Préparez-vous à partir, hein. Vous serez épargnés. L'exterminateur frappera toute l'Égypte, mais vous ne serez pas frappés, mais que vos reins soient sains, que vous ayez le bâton à la main, et que vous soyez maintenant prêts à marcher avec moi. » Et l'Église, eh bien, c'est aussi cela. Est-ce que nous sommes prêts au retour de Jésus? Est-ce que l'Église est prête? Est-ce qu'elle n'a pas besoin peut-être justement devant sa nonchalance, son sommeil, son assoupissement, ses engourdissements, sa torpeur, besoin de se repentir de quelque chose? Bah, ce sont les lettres qui sont destinées aux Églises de l'Apocalypse, vous savez, il y en a 7 comme ça, hein. Tiens-toi prêt parce que je viens bientôt. Alors, Tsunamite dira, je me suis levé pour ouvrir la porte à mon bien-aimé. L'amour somnolent fait place aux vives émotions de l'amour qui se réveille. Et c'est la prochaine étape que nous allons voir. Et nous allons lire maintenant à travers le verset 6 au verset 9. Il est dit ceci, ça en trouve justement, maintenant après le sommeil, le réveil. Et qu'est-ce qui se passe ? J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'avais le souffle coupé quand il me parlait. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, fils de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous ? Que je suis malade d'amour. Ça sera le titre que nous allons donner. Malade d'amour. Que je suis malade d'amour. Qu'a-t-on bien aimé de plus qu'un autre ? Répondent les filles de Jérusalem. Oh, la plus belle des femmes. Qu'a-t-on bien aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi ? Que lui direz-vous ? Je suis malade d'amour. La repentance, je le rappelle, puisque c'était la dernière note que nous avions donnée la fois dernière, la repentance précède toujours le réveil. Ça, c'est inéluctable. Il faut se souvenir de notre propre conversion, conversion personnelle. C'est parce que nous sommes passés par la repentance que nous sommes nés de nouveau, que nous avons découvert une vie nouvelle, que nous sommes devenus des nouvelles créatures. Et aujourd'hui, à quelque mesure que ce soit, il n'y aura jamais de réveil, à titre personnel, même si nous sommes passés déjà par cette repentance de salut, mais pour un renouveau, je l'ai entendu ce soir dans les prières, une aspiration à vivre quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose avec plus de fraîcheur, on s'use dans la vie, et ça ne peut se passer que par une repentance. Et la repentance, c'est Dieu qui la crée, dans nos dispositions, bien sûr, avec un soupir, avec un besoin, et nous en sommes tous au même point. Donc la repentance précède toujours tout réveil. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, avons-nous lu. Je vous rappellerai au passage que, avant d'être accueilli dans la maison du Père, le fils prodigue s'est levé. Il était déjà dans une situation épouvantable de misère et de souffrance, dont il était lui-même le responsable au premier chef. Mais le texte nous dit qu'il s'est levé avec une résolution. J'irai vers mon Père. Je lui dirai ceci, cela, etc., etc. J'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais il s'est levé. Et non seulement il avait pris la décision de se lever, je me lèverai, mais il y est allé. C'est ça, justement. Tout à l'heure, j'ai entendu une prière. C'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire. D'accord ? Eh oui, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Alors, le fils prodigue s'est levé. L'église dormante de Laodicée. Connaissez la septième église auquel l'Esprit s'adresse dans le livre de l'Apocalypse, reçoit cet ordre. Et donc du zèle et repens-toi. Et donc du zèle et lève-toi. C'est ça ce que ça veut dire. Quand on est couché, on dort. Quand on est debout, on marche. Et quand on marche normalement, dans la nature humaine, c'est fait comme ça, c'est pour aller de l'avant. C'est pas pour aller en arrière. Alors, et donc du zèle et repens-toi. Tsunamite se lève pour ouvrir. La voix et la main de l'époux ont triomphé de la léthargie donc de cette jeune fille endormie. Et il y a maintenant renouveau chez elle, renouveau d'énergie et de volonté. Les comment d'hier, les pourquoi d'hier, les interrogations de la paresse ont disparu. Et là, à ce moment-là, nous la voyons dans notre texte, puisque nous l'avons lu, elle se précipite à la porte et découvre cette expérience agréable que l'on peut ressentir quand on est bien réveillé. Tant qu'on est encore dans le brouillard, tant qu'on est encore dans le... Comment dit-on, le coltard ? C'est pas un beau mot. Quand on est encore dans les brumes du sommeil et de la nuit, on peut se heurter dans les portes, hein, d'accord. Mais quand on est bien réveillé, il y a des choses qui sont beaucoup plus claires pour nous, vous comprenez? On a tous fait l'expérience, hein. Ouais. Quelquefois, dans nos nuits agitées, parfois angoissées, c'est un mauvais sommeil. Et quand on se réveille, c'est terrible. On sent les vapeurs ou les effluves ou tout simplement les ondes quelquefois de négative, de la déprime qui monte. Hein. Voilà, ça monte ou ça descend, mais en tous les cas, c'est quelque chose de très désagréable. Mais là, la voix de son bien-aimé, elle l'a entendue. C'était pas un rêve. La main de son bien-aimé, elle l'a ressenti. La voix et la main de Dieu. C'est quelque chose d'important. Et elle reçoit ça comme une expérience, comme quelque chose de tellement bon, suave, quelque chose de beau. Elle est amoureuse, hein. Ça change tout, hein. C'est vrai. Mais une amoureuse qui souffre. Parce qu'elle voudrait être encore plus près. Lui, de l'autre côté de la porte. Elle est dans la maison. Il y a une porte qui les sépare. Il y a encore quelque chose. Alors, cette expérience agréable, eh bien, elle l'exprime. De mes mains, dira-t-elle, ont dégoûté la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe limpide, répandue sur la poignée du verrou. Au matin, la fraîcheur, le parfum, est une sensation tellement plaisante. On le fait tous. On aime bien se parfumer. Ça rafraîchit, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, c'est autant pour les messieurs que pour les dames, hein. On ressent une fraîcheur, on est vraiment en forme. Ouais. C'est quelque chose. Alors, elle ressent cela comme une sensation d'une quelque chose de très agréable, tout comme Tsunamite éprouve à cet instant, dans son retour à la pleine conscience, puisqu'elle ne dort plus, elle est bien réveillée, combien la proximité, même derrière la porte, combien la proximité de la présence de son bien-aimé lui est douce. Vous savez, il y a des moments d'intimité avec Dieu, hein. Il y a des moments c'est difficile. On n'est pas bien dans notre âme, on n'est pas bien dans nos pensées, on n'est pas bien dans notre intelligence, on n'est pas bien dans notre corps, on n'est pas bien dans notre cœur, dans nos sentiments, dans notre affect. Et là, il se passe des choses où on se dit, mais Seigneur, j'ai du mal à te joindre, j'ai du mal à te rejoindre, j'ai du mal à communiquer, vous savez, comme quand on est au téléphone et qu'il y a de toutes sortes d'interférences, on n'entend pas. Mais il y a des moments aussi qui sont le contraire, où on s'assoit, ou tout simplement en lisant sa Bible, ou tout simplement par un moment de recueillement ou d'adoration. On sent qu'on est envahi à ce moment-là, c'est cette fraîcheur. Vous savez, c'est la myrrhe qui découle. Et Dieu pose sa main pour nous faire du bien, on en a besoin. On en a eu besoin peut-être parce qu'on a traversé les moments difficiles. Mais on va en avoir besoin parce qu'il y a encore dans la vie tellement de choses où on a besoin d'être rassuré et rafraîchi et visiter un parfum d'une agréable odeur, c'est la présence du Seigneur. Et elle le sent, la proximité de son bien-aimé, lui est extrêmement agréable et douce. Comment a-t-elle pu l'oublier et s'endormir? C'est la question. Comment aujourd'hui l'Église, comment ne ressent-elle pas, ne ressent-elle plus la présence de son Sauveur? Vous savez qu'à chaque fois que nous nous réunissons pour une réunion de prière, ce soir en l'occurrence, ou dans une réunion d'évangélisation, ou dans n'importe quelle situation, le culte par excellence, mais le Seigneur est toujours là, hein. Quelquefois on dit, et nous avons entendu des réflexions négatives, mais le Seigneur n'est pas là. Mais il n'est pas là pour la personne qui dit qu'il n'est pas là. Mais pour les autres, c'est peut-être différent. C'est pour ça que nous ne pouvons pas généraliser avec nos impressions. Et c'est là où il faut faire très attention aux impressions que nous pouvons avoir. Surtout quand on les colle sur les autres. Et quand on juge les autres. C'est autre chose. Vous savez, même dans une réunion quelconque, enfin, excusez-moi, il n'y avait pas jamais de réunion quelconque, mais une réunion habituelle, normale, régulière, ou d'un grand classique, eh bien, si peut-être ça nous dit rien pour nous, il va peut-être y avoir une personne qui va venir, un frère ou une sœur, ou peut-être une personne de l'extérieur, qui viendra et qui vivra le plus grand de tous les bonheurs, parce qu'elle saura, elle vivra cette myrrhe qui découle sur son cœur et sur son âme. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et l'Église, c'est ça. C'est pour ça que le Seigneur est toujours là. Ou alors, on le fait menteur. Quand il nous dit, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Eh bien, le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et là, il n'y a pas à discuter. Ce n'est pas les autres qui ont un problème. Ce n'est pas le pasteur qui a un problème. Ce n'est pas l'église que je fréquente qui a un problème. Mais c'est moi-même qui ai un problème de réceptibilité ou de, pour recevoir ou pour ressentir. Ressentir. Non pas d'une manière charnelle. Parce que là, ça trompe. Mais ressentir la présence de Dieu par l'Esprit de Dieu. Et il est en nous. Normalement, il est censé être en nous. Alors, comment A-t-elle pu l'oublier, Tsunamite, et s'endormir? Alors que tout est imprégné, finalement, de ce qu'il est. Le chant des cantiques est imprégné de Jésus. La louange et l'adoration, l'action de grâce est imprégnée de Jésus. La prière que nous avons fait monter ce soir est imprégnée de Jésus. Le Saint-Esprit est au milieu de nous, tout est imprégné. Même les choses les plus communes ou les plus banales. Comment a-t-elle pu s'endormir? Comment l'Église peut-elle s'endormir? Alors il y a un problème à ce moment-là. Comment a-t-elle pu l'oublier, ce Sauveur? Lui substituant toutes sortes de choses, toutes sortes de dévotions, toutes sortes de rituels, toutes sortes de cérémonies, toutes sortes, comment dire, remplaçant sa parole unique qui est la vérité par toutes sortes de paroles humaines, sociales ou politiques. Parce que ça se fait beaucoup, hein. Eh oui. Mais voilà. L'agréable est fugitif. Nous l'avons vu. Elle est dans la maison. Le bien-aimé passe, il est derrière la porte. Elle ressent pourtant qu'il y a une présence extraordinaire, une intensité de la présence de son bien-aimé. Et il y a une leçon à retirer de la suite. Je relis le verset 6. J'ai ouvert à mon bien-aimé quand elle a ouvert la porte. Elle était bien réveillée à ce moment-là. Toute dans l'émotion de ses élans amoureux, probablement. Mais mon bien-aimé s'en est allé, ou il s'en était allé, il avait disparu. J'avais le souffle coupé quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. Je rappelle, l'agréable est fugitif. Elle l'a ressenti et ça s'est évaporé. C'est curieux ça. La fiancée, l'épouse, qui est Tsunamite, est entièrement réveillée à ce moment-là, mais l'époux, à peine entrevu, disparaît aussitôt. Pourquoi? Ils étaient si près l'un de l'autre. Ça aurait pu être le moment, justement, eh bien, de ces retrouvables, de ces noces, de ces épousailles. Mais pourquoi? Pourquoi si près l'un de l'autre est-il parti? Pourquoi lorsque nous croyons atteindre l'idéal, ou le bonheur parfait, ou que nous touchons là, eh bien, quelque chose qui nous montre combien le Seigneur est si près de nous pour nous amener un peu comme Paul jusqu'au troisième ciel, vous comprenez? Et que là, finalement, quand on ouvre la porte, il n'y a plus personne. C'est curieux, hein? Mais il y a une raison pour cela. À ce moment-là, Tsunamite est désappointée. Elle pensait l'avoir en face. Se précipiter dans ses bras pour qu'il puisse la serrer, l'embrasser, l'étreindre. Mais il n'est plus là, il disparaît. Alors, elle ne sait plus quoi penser de tout ça. Et elle va crier, tout simplement, « Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. » Elle va regarder à droite, elle va regarder à gauche, il n'est plus là. Et nous trouvons dans cette leçon, nous trouvons dans cette image, dans cette attitude, une leçon importante. Écoutez bien, c'est que la proximité du Seigneur, nous le vivons par la foi. La proximité du Seigneur, près d'une âme, près de moi, près de vous, près de chacun, un instant, un moment de sa visitation, est un moyen de ranimer nos affections somnolentes. Toutefois, après avoir été touché par sa présence fugitive, eh bien, il nous appartient, alors réveillés, de ne pas nous rendormir. Et c'est ça, justement, qui quelquefois désappointe les enfants de Dieu. J'ai touché le troisième ciel, j'ai fait une expérience, j'ai eu une vision, j'ai eu un songe, Dieu m'a parlé, ceci et cela. Alors, c'est formidable, j'y crois, je l'ai vécu moi-même. Mais on ne le vit pas continuellement. J'entends heureusement. Eh oui, parce qu'autrement, est-ce qu'on deviendrait des mystiques, des éthérés et des gens qui n'ont plus de contact, finalement, avec la réalité des choses? L'homme est de la terre, le Seigneur est au ciel, il nous prépare pour aller au ciel, mais il faut quand même rester sur la terre. On en a vu décoller, hein, des chrétiens, hein, et qui ne savaient plus comment atterrir. Et quand ils ont atterri, ça a été dur, hein, parce qu'ils n'ont pas supporté. Ah, ils étaient tellement partis. Chacun a une âme et une sensibilité particulière, hein, je ne discute pas là-dessus. Il y a des gens qui ont une approche tout à fait différente des autres. Mais attention, faisons attention, nous pouvons avoir fait les plus belles expériences, et si dans chacun d'entre nous nous souvenons que nous avons fait ce genre d'expérience. Oui, pour notre compte. Une chose qui est certaine, c'est que le Seigneur va pas nous faire vivre tout le reste de notre vie entre le ciel et la terre, vous comprenez. Un chrétien est un homme réaliste. Il a certes le cœur au ciel, mais il a les pieds sur terre. Parce qu'autrement, je peux vous dire que le témoignage est déplorable. Oui. Devenir un béni oui-oui. Devenir là un extraterrestre. Non, un chrétien, c'est un homme qui reste sur la terre. Et il rend témoignage. À travers toutes les vicissitudes, à travers toutes les réalités existentielles de son humanité, eh bien, de ce que, finalement, peut être la foi, être un témoin, un ambassadeur de Jésus-Christ. Vous demanderez la question quand vous verrez l'apôtre Paul, quand on le verra là-haut. Je peux vous dire que il est monté jusqu'au troisième ciel, mais il avait quand même bien les pieds sur terre. Hein. D'ailleurs, ses ennemis, ses adversaires, ses frères, ses faux frères, lui ont bien chargé de lui rappeler tous les jours qu'il était sur terre. Hein. Et nous, c'est pareil. Alors, moi, je me méfie toujours des prédicateurs ou des prédications qui décollent. Parce que je me dis, ça décolle, bien, d'accord. Mais je me demande où est la piste d'atterrissage. Parce que quelquefois, on a de la mal à avoir de la visibilité. Hein. Ouais. Attention à la contrefaçon et ne pas se tromper entre le psychisme et le spirituel. Je le rappelle parce que on l'a malheureusement trop souvent vu. C'est un moyen donc, ce réveil, cette expérience fugace, fugitive, qui nous arrive à un moment donné, dans un moment de prière, ou dans une réunion, à travers un message, une prédication, à travers un don spirituel, à travers toutes sortes de choses, qui viennent nous frapper, qui nous transportent dans la joie et dans l'allégresse. Attention, ce n'est que pour un moment. Et ce n'est que pour un moment, tout simplement pour animer, je le rappelle, nos affections somnolentes, toutefois, après avoir été touchées par cette présence bénie du Saint-Esprit, présence fugitive, il nous appartient, eh bien, tout simplement, de ne pas nous rendormir, fort de cette expérience pour aller plus loin. Vous l'avez compris, ça, naturellement. L'amour, la ferveur, le feu de la consécration et bien d'autres choses se perd si facilement. Ouais. À nous de l'entretenir et de le retenir. Non pas d'une manière fiévreuse et dans la crainte, mais de pouvoir dire, eh bien, merci Seigneur pour cette nouvelle étape. Il y en aura d'autres encore devant moi et encore de plus grandes. C'est Paul qui dit de gloire en gloire. D'accord. Mais mon bien-aimé s'en est allé. Il avait disparu. C'est terrible, hein. Et c'est pas pour ça que vous êtes perdus. Et c'est pas pour ça que nous sommes perdus parce que nous n'avons peut-être pas retrouvé les expériences d'hier, les expériences du début de notre conversion, les expériences que nous avons faites exceptionnellement dans une crise que nous avons traversée, soit à travers la maladie, soit à travers une détresse, à travers toutes sortes de choses, et que nous avons vu le Seigneur, le ciel ouvert à ce moment-là, et le Seigneur nous prendre et nous délivrer d'une manière miraculeuse. Ouais. C'est vrai, tout cela. C'est vrai. Mais il y a encore quelque chose de meilleur. C'est qu'après avoir fait ce genre d'expérience, le Seigneur nous dit, continue à marcher par la foi, sans me voir, sans me ressentir. Continue à marcher par la foi, parce qu'il y aura encore de nouvelles expériences dont tu ne peux pas t'imaginer ce que ça peut être. Et nous ne sommes pas de ceux qui restons en arrière pour regarder toujours derrière nous en disant, c'était le bon temps, mais nous sommes de ceux qui, après avoir connu le bon temps et l'onction du Saint-Esprit, nous continuons à marcher en disant, Seigneur, j'ai faim et j'ai soif, finalement, d'une nouvelle expérience. Que celui qui regarde toujours derrière, un jour il se prend le mur. C'est normal, on a des yeux devant, pas des yeux derrière. Il est faux de penser qu'une fois réveillés, nous allons ou nous pouvons vivre sous une onction constante. L'onction, elle est bien, elle est bonne, prenons-la, gardons-la, mais il va falloir après gérer dans des expériences fortes et exceptionnelles qui nous portent véritablement dans une sensation comme Tsunamite l'a eu à ce moment-là, et quand elle a ouvert la porte, il n'était plus là. Et il avait raison d'être plus là parce que vous allez comprendre pourquoi. La permanence de cette onction, nous l'aurons de l'autre côté. En attendant, marchons par la foi. Marchons par l'esprit, comme cela nous a été rappelé dimanche dernier. Marchez par l'esprit. Et marcher par l'esprit, c'est pas la chair. Parce que la chair, elle a des sentiments ou elle a des besoins, des instincts contraires à ceux de l'esprit. Oui. Tout souffle de réveil ne dure que le temps de se réveiller. C'est pour ça que quelquefois on a été très malhabile pour gérer les réveils. Des grands réveils qui ont rassemblé des centaines, des milliers, des centaines de milliers de personnes, mais on a été très malhabile parce qu'on a tellement voulu le mettre dans une boîte. On a tellement voulu le mettre dans un croff et en faire pratiquement un veau d'or, une idole. Ah! Le réveil qui a traversé notre région, qui a traversé notre pays et tout ça. Mais écoutez, c'était bien. On l'a connu, on l'a pas connu. On en a entendu parler. On l'a vécu ou pas. Mais une chose qui est certaine, c'est que, attendez, c'est comme la manne, hein. Si vous la conservez et que vous voulez la conserver un peu plus longtemps que ce qui est prévu, vous allez le perdre, hein. Vous connaissez l'histoire de la manne? Dieu leur avait dit, vous allez consommer aujourd'hui la manne d'aujourd'hui, demain elle sera plus bonne. Eh bien aujourd'hui c'est la même chose avec l'onction du Saint-Esprit, avec le réveil de l'Esprit, avec une visitation. Mais c'était le temps de nous réveiller et à nous ensuite de garder précieusement ce renouveau d'énergie spirituelle et de le faire valoir avec cet acquis, avec cet atout. Je vais aller plus loin. Je sais que le Seigneur est capable d'envoyer l'onction du Saint-Esprit. Je sais qu'il est capable de me réveiller. Je sais qu'il est capable de me délivrer, de me montrer des choses extraordinaires. Mais il l'a déjà fait et il le fera encore. Mais il le fera certainement d'une autre manière que la première fois ou les premières fois. Mais le but est atteint. Tsunamite est sortie de son sommeil. C'est ce qu'on appelle un réveil. L'Église sort de son sommeil. Elle a besoin. Et si aujourd'hui nous disons l'Église est endormie, certainement qu'il y a probablement des problèmes. Mais moi, je crois que je ne veux pas regarder au problème, je veux regarder à ce que le Seigneur va donner comme réponse au problème. Oui. Le Seigneur est capable de faire, ici à Saint-Nazaire, à Redon, il a commencé déjà à le faire, dans une petite proportion, mais moi, pour moi, ça me réjouit. Et nous devons nous réjouir, et ne pas compter les chaises vides, s'il y a quelquefois des chaises vives, des chaises vides, pardon. Mais une chose qui est certaine, c'est que c'est à cela que je vais regarder. Alors, elle est sortie de sa torpeur, la preuve. C'est elle qui dit maintenant, je l'ai cherché, je l'ai appelé. Elle le fait elle-même. Elle s'active pour son bien-aimé, pour le retrouver. Il n'est plus là. Cette pensée est rendue évidente par les mots d'Ésaïe. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, appelez-le tandis qu'il est prêt. C'est le moment de prier. Nous avons besoin vraiment de prier pour nos frères et nos sœurs qui ont oublié la réalité et l'efficacité et la nécessité d'une réunion de prière comme nous l'avons le mardi soir à Redon et le mercredi à Saint-Nazaire. Mais bon, s'ils ne viennent pas, c'est comme ça. En tous les cas, nous devons, puisque nous sommes réveillés, nous voulons être réveillés, en tous les cas, nous voulons donner la priorité à ce moment parce que c'est un moment béni. Et je crois que Dieu veut se servir d'un petit nombre plus que d'un grand. Et que les quelques prières qui ont été prononcées ce soir, pour telle ou telle situation, et particulièrement pour le salut, eh bien moi, ce sont des prières qui sont entendues dans le ciel. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Voyons l'exemple des disciples d'Emmaüs rapidement. Ils étaient tous, excusez-moi, mais anesthésiés. Anesthésiés par la déception, parce que leur maître Jésus, il l'avait vu de loin crucifié, il l'avait certainement vu de loin aussi emmené dans le tombeau, et quand on est venu leur dire qu'il était ressuscité, eh bien ils étaient complètement anesthésiés par le désappointement, le découragement, la dépression. Leur cœur était lent à se réveiller à la réalité de la résurrection de Jésus qu'il leur avait dit lui-même, et ils s'éloignent de Jérusalem, la mort dans l'âme. Nous pensions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Ben voilà, ils partaient avec ces pensées tellement lourdes et négatives dans leur cœur. Nous espérions que ce serait lui. Mais oui. Sans le savoir, Jésus est à côté d'eux. Sans le savoir, Jésus les suit. Sans le savoir, Jésus parle à leur cœur. Et il nous est dit à un moment donné, dans le texte de Luc, que leur cœur était empêché de le reconnaître. Leur cœur, leurs yeux empêchés de le reconnaître parce qu'ils étaient pleins de l'appesantissement, du doute. voire même de l'incrédulité, mais Jésus va cheminer avec eux, il va faire brûler leur cœur en éveillant doucement par sa parole. Eh bien, il va réveiller leur amour, et il va réveiller leur espérance d'une manière magnifique, majestueuse, divine, comme il est capable de le faire encore pour nous. Et arrivé au village, ils se mettent à table et ils vont demander à Jésus, qu'ils n'ont pas encore reconnu, de venir prendre le repas. Et tout à coup, comme pour Tsunamite, hein, on l'a lu tout à l'heure, le miracle se produit. Alors leurs yeux, nous dit le texte, s'ouvrirent, mais il disparut de devant eux, exactement comme pour Tsunamite. Au moment où ils croient le tenir, il est parti. Ils sont bien réveillés, les disciples d'Emmaüs, parce qu'ils ont marché pendant quelques temps, oh, voire de grandes minutes, peut-être une heure, avec celui qu'ils n'avaient pas reconnu, c'était Jésus, et il leur parlait des Écritures. Et il nous est dit à un moment donné, mais notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait de la Torah, parce que c'était ça en fait, hein, la loi de Moïse, etc., etc. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, mais ils disparurent devant eux. Ils sont bien réveillés, et que font-ils ensuite? Que font-ils les disciples d'Emmaüs? Ils vont se coucher? Non. Ils ne vont pas se coucher. Ils ne vont certainement pas se coucher. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, dont ils venaient de quitter finalement la ville quelques instants auparavant, enfin disons une heure avant. Et ils trouvèrent les onze et dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité ». Eh bien, quand on passe par un réveil, quand on vit un réveil, on proclame que Jésus est ressuscité. C'est la vie, ça. Hein, ouais, c'est la vie. La parole de Jésus les a tirés de leur sommeil, a ranimé la flamme qui était près de s'éteindre, confirmant ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12. Je n'éteindrai pas le lumignon qui fume. Et moi, je crois qu'il y a dans l'église probablement des frères et des sœurs, des hommes et des femmes, dont le lumignon est en train de fumer, mais il n'est pas encore éteint. Non. Il n'est pas encore éteint. Essayez de le rallumer vous-même, vous allez l'éteindre. Laissez donc le soin au Seigneur de le rallumer dans le cœur ou dans la conscience de notre frère ou de notre sœur. Soyons sages. Qu'il est triste lorsque la parole ne fait plus brûler les cœurs. C'est triste, hein? Comme pour Étichus. Vous connaissez Étichus? Ça veut dire heureux en grec. Qui, en écoutant Paul parler, parce qu'il avait parlé longtemps, hein, s'est endormi, a été relevé mort. Oui. Enfin, heureusement, Paul était là. Et lui aussi. Il a vécu aussi quelque chose. Parce que Paul l'a ressuscité, Étichus. Enfin, c'est une image. Je vais terminer avec le verset 7. « Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile. » En quelque sorte, presque une violence, presque un viol. « Les gardes des murs. » Les gardes des murs. Tsunamite est à la recherche de son époux. Là, maintenant, elle est bien réveillée. Elle sort de sa maison, elle a claqué la porte et elle court dans la nuit. Elle retourne dans la ville et elle le cherche, son fiancé, son époux, son bien-aimé. Et que fait-elle? Dans la nuit et dans les rues de la ville, elle cherche de tous les côtés, elle est aux abois, et elle est vraiment convaincue qu'elle a été très proche de rencontrer, eh bien, son bien-aimé. À ce moment-là, elle court un danger. Tsunamite s'expose au mauvais traitement des gardes. Les gardes, ils sont brutaux, ils sont rustres, ils sont brusques. Ce sont des violents. Ils sont là pour garder les murs. Ils sont là pour garder la ville, pour protéger le sommeil des habitants. Mais quand ils trouvent quelqu'un dans la rue, surtout une femme, alors ils vont pas lui faire de cadeau, hein. Ils vont pas lui faire de cadeau. De même, tout véritable réveil, c'est vrai pour une église et c'est vrai pour quelqu'un, un homme, un chrétien en particulier, eh bien tout véritable réveil nous met en but à la contestation, à l'opposition et à la persécution. C'est parce que nous sommes réveillés que nous dérangeons. C'est parce qu'une église est réveillée qu'elle, véritablement, eh bien, elle dérange, elle embarrasse. Parce qu'elle proclame des vérités. Parce qu'elle est en train de mettre à mal les puissances de l'ennemi et des ténèbres. Parce qu'elle dénonce, parce qu'elle libère, parce qu'elle fait tomber les chaînes. Alors à ce moment-là, les gardes de la sacro-sainte de l'établissement, ils ne voient pas ça du bon œil, hein, vous comprenez? C'est comme le jour de la Pentecôte, avec les autorités, hein. Les disciples se sont retrouvés en prison, hein, parce que ça faisait du bruit, hein, naturellement. dont le seul but est de nous faire renoncer au réveil et à la vie de l'esprit. C'est ça le but. Il y a des gardes de droite et de gauche qui n'appartiennent pas aux anges de Dieu, mais qui appartiennent aux anges de l'ennemi, qui sont là dans la nuit, qui courent dans la ville, qui courent dans la société pour essayer d'empêcher que nous gardions en mémoire et dans notre vécu ce que c'est que le véritable réveil et que nous le colportions ailleurs. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils ont ôté mon voile. Vous rendez compte, hein, quelque chose, hein. Le monde, nous dit l'apôtre, gît dans le malin. Et le monde sera toujours dérangé par l'Église réveillée, et sa réponse sera toujours semblable à celle des gardes, parce que sa réponse sera la violence, sera la critique, la moquerie, l'humiliation, et toutes sortes de choses semblables. Et Jésus nous le dira dans le sermon sur la montagne. « Soyez heureux lorsqu'on dira toutes sortes de mal à cause de moi, à cause de mon nom. Soyez dans l'allégresse !» Eh bien, c'est parce qu'on est vivant. C'est parce qu'il y a vie de l'esprit. Autrement, s'il n'y avait qu'une vie charnelle ou une vie religieuse, ça ne dérange personne. Naturellement, personne. Pour autant que soient ces expériences de douleur, d'opposition et de persécution, elles opèrent néanmoins dans l'âme réveillée un rapprochement, un attachement plus fort, salutaire à notre Sauveur. C'est parce que nous allons mal, parce que nous sommes disputés, que nous nous rapprochons du Seigneur, que nous prions davantage. Seigneur, délivre-moi, aide-nous, garantis-nous, fais quelque chose pour nous. Ça nous rapproche. Et ça, c'est un piège de l'ennemi parce que finalement, il fait une œuvre qui le trompe. Plus il nous tape dessus, plus nous nous rapprochons de Jésus. Parce que nous sommes réveillés. Parce que si on n'est pas réveillé, on va rien voir du tout. Oui. Le combat à cette vertu, c'est qu'il tient éveillé. Vous savez, un soldat qui va au front, hein, je peux vous dire qu'il ne dort pas. Hein. Il n'a pas intérêt de dormir, parce qu'il est celui qui vive. Eh bien, pour nous, une église finalement qui combat, une église qui est vivante, une église qui a cette combativité, elle, et donne la preuve qu'elle est réveillée. Puis je termine en conclusion. C'est désormais dans un élan de cœur sincère et fermant, une sorte de prière, un cri que Tsunamite s'exprime ainsi. Il dira, je vous en conjure, fille de Jérusalem. Là, elle sent qu'elle est toute seule, elle a besoin des filles de Jérusalem. Fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Et là, c'est véritablement le next plus ultra de notre message ce soir. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Écoutons cette pathétique confession. Si vous voyez mon bien-aimé quelque part, vous lui dites que je suis malade d'amour. Ça va? Je suis malade d'amour. Maladie d'amour. Hein? Ça a été décliné, ça a été chanté, hein, sur tous les registres avec différentes voix, etc., hommes et femmes. Ouais, c'est ça. Ouais. Que je suis malade d'amour. Voilà le test le plus vibrant du vrai réveil spirituel. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, nous sommes malades, mais quelle maladie agréable de ne plus pouvoir se passer de Jésus, de ne pouvoir que chanter ses louanges, de ne pouvoir qu'avoir cette faim, mais terrible, de lire sa parole, de vivre véritablement près de lui. Je suis malade d'amour. Être malade d'amour pour Jésus, et c'est la plus heureuse des maladies, hein. Vous pourrez peut-être aller voir un médecin. Il pourra vous dire, mais vous êtes complètement tombé sur la tête. Hein. Maladie de cœur. Eh oui, je suis venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Et les cœurs brisés, eh bien, Jésus les guérit par cette maladie d'amour. Précisément, à cause de son nom et pour lui, pour sa parole. Ouais. Si l'Église entière, chacun d'entre nous, était atteint par ce bien d'amour, je ne dis pas ce mal d'amour. Parce qu'on, nous, on le traduit dans notre vocabulaire par un mal. Mal d'amour. Mais moi, je dis par ce bien d'amour, le monde, je crois, se réveillerait à son tour. Hein. Emporté par le flou. Voilà. Auparavant, Tsunamite était trop prise pour le monde, pour jouir de son époux, de son fiancé. Mais voilà le résultat. C'est un miracle. C'est le miracle de la grâce et du Saint-Esprit. Tsunamite, donc, et maintenant, devenue trop prise pour son bien-aimé et avoir du goût et intérêt pour le monde, et n'est-ce pas cela que de se réveiller quand on n'a plus de goût pour le monde, pour les choses du monde? Oui, j'ai retourné les choses dans l'autre sens. Et pourtant, hélas, et je suis le premier à pouvoir le confesser, je manque encore beaucoup d'amour pour le Seigneur. J'ai encore des kilomètres à faire. Oui. Parce qu'il y a encore quelquefois, dans cette double nature qui est la nôtre, qui est la mienne, tellement de choses qui me retiennent. Tellement de choses. Mais moi, je fais confiance au Seigneur. Il le sait que le chantier est gigantesque dans notre vie, dans ma vie. Mais je fais confiance, parce que si j'essaie de construire par moi-même avec mes propres mains, je ne vais pas y arriver. Et je lui dis, Seigneur, toi tu connais toutes choses. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Hein? Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé, Seigneur. Moi je te le demande, et je m'aperçois que je reste à la traîne hein, dans tout ça. Alors, c'est ça le réveil. Quand véritablement l'amour, quand on est malade d'amour pour Jésus, eh bien, ça c'est un bien d'amour. Mais à ce moment-là, on n'a plus beaucoup d'intérêt pour le monde, ça ne nous intéresse plus. Les choses sont passées, les choses sont ternies, les lauriers sont fanés, vous comprenez? Ça ne nous dit plus rien. On y aspire à tout ça. Hein? Je termine dans le psaume 116, verset 1er, on le chante très souvent. J'aime l'Éternel, car il a entendu ma voix, car il a entendu mes cris, car il a entendu mes supplications, il a entendu mon besoin. J'aime l'Éternel. Et quand j'entends aussi, ou quand je lis ce que Paul écrit, quand il dira « L'amour de Christ me presse », vous connaissez, si aujourd'hui c'est moi qui vis, ben c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, alors l'amour de Christ me presse. La chaleur de notre amour pour lui, la teneur, l'intensité de notre amour pour lui, la qualité de nos relations avec lui, la profondeur de notre intimité avec lui, se mesure au désir, se mesure au plaisir, à la ferveur que nous éprouvons à le chercher. Seigneur, je te cherche. Comme nous le dit le cantique, je te cherche, Seigneur, au coin du jour, au point du jour. Oui, et mon âme heureuse. Il y a des paroles qui sont formidables. Elles ont été écrites aussi sous l'inspiration. Alors, c'est à la ferveur que nous éprouvons à le chercher, à l'écouter, à le prier, et à l'adorer, à le louer. Encore pour cela, faut-il que nous soyons réveillés. Et je me mettrai du côté de Paul quand il écrit ces paroles. Écoutez, je les lis. En sorte, afin que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, afin que vous puissiez comprendre avec tous les chrétiens quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Seigneur, merci de ce que nous a laissé ce beau chapitre 5 du Cantique des Cantiques, parce que je dormais hier et aujourd'hui tu m'as réveillé, mais garde-moi les yeux ouverts et le cœur aussi ouvert pour que nous puissions, que je puisse vivre par ton esprit. Que Dieu nous bénisse. On va simplement terminer par une très courte prière. Seigneur, merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour Tsunamite. Merci pour le bien-aimé, merci pour Jésus, parce qu'il est véritablement l'époux, le fiancé. Il est celui qui mérite de recevoir de la part de, eh bien, cette fiancée qu'est l'Église, de son épouse, en effet la louange et la gloire, et que nous connaissions la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de ton amour que tu as manifesté, en te donnant pour chacun d'entre nous pour que nous soyons sauvés, et que nous participions à ce salut éternel que tu nous réserves dans les cieux. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.